Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Deux nouvelles attaques des ZDF enregistrées hier sur la route Komanda Luna en Ituri. Bilan, un mort, 14 personnes enlevées et des maisons incendiées. La société civile s'est dit inquiète, mais l'armée rassure. Les opérations militaires sont en cours dans la zone. Les enseignants du primaire des écoles publiques de la RDC ont désormais un syndicat pour réclamer leurs droits. Après sa mise en place hier à Kinshasa, ce syndicat dénonce ce qu'il qualifie de mauvaise catégorisation des écoles primaires et demande au gouvernement d'uniformiser la prime de gratuité dès ce mois de février. Province de la Tchopo, le centre d'éducation et de recherche pour les droits des femmes plaide pour l'abolition de la peine de mort en RDC. Une conférence débat a été organisée dans ce sens récemment à l'Alliance française de Kisangani. Pour en parler, nous recevons Claudine Bella, directrice de ce centre. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Deux nouvelles attaques des rebelles ADF ont été enregistrées hier sur le tronçon Komanda Luna sur la route nationale numéro 4. Selon des sources concordantes, une personne a été tuée, 14 autres enlevées et des maisons incendiées. Des structures de la société civile dans la zone demandent au FARDC de traquer ces rebelles qui menacent la sécurité des usagers de ce tronçon ainsi que la population installée dans les localités le long de cet axe routier. Le récit de Isaac Remoyo.
Après l'attaque du convoi des véhicules vendredi matin, les rebelles des ADF ont fait incursion vers 14h au village proche de Katabei sur les tronçons Komanda Luna. Selon l'ONG de défense des droits de l'homme CRDH, un homme a été tué, 6 maisons incendiées et 4 motos brûlées. Ces hommes armés se sont également introduits vers 21h au centre de Luna, à la limite entre l'Ituri et le Nord Kivu. Selon des sources locales, ils ont pris en otage 14 civils qui ont été amenés dans la brousse. Cette recrudescence d'attaque des ADF inquiète la population qui ne sait plus vaquer à ses occupations et circuler librement. Ils demandent de faire d'essayer de lancer l'offensive pour déloger ces rebelles qui se cachent dans la forêt le long de la route Komanda Luna. David Munyanderu.
Nous sommes en train de les rappeler, de voir comment poursuivre l'ennemi parce que l'ennemi est en train de circuler aux alentours de la RN4 et aussi longtemps il ne sera pas poursuivi nécessairement. Nous allons continuer toujours à assister à des attaques répétitives sur les villages qui se trouvent dans la chefferie de Alès et Vokutu.
Les porte-parole de l'armée en Ituri indiquent que les opérations militaires sont en cours dans la zone après avoir repoussé samedi ces rebelles, dont 8 ont été neutralisés. Signalons que le convoi des véhicules qui a quitté Komanda hier est arrivé dans l'après-midi à Luna, mais d'autres véhicules à provenance de Luna qui ont rebroussé chemin lors de l'attaque de ces rebelles attendent les prochains convois. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Territoire de Beni, signalant l'arrivée depuis vendredi des troupes des FARDC en renfort de leur position dans la chefferie de Watalinga, ce qui rassure les populations locales. Ce dimanche matin, certains déplacés ont enfui Nobili et Kamango pour trouver refuge dans le camp des réfugiés en Ouganda ont commencé à retourner chez eux. La société civile plaide pour des patrouilles de combat dans la zone pour renforcer la sécurité des populations. Marc Marofimbo nous en dit plus.
C'est depuis 3 jours maintenant que les FARDC renforcent leur position dans la chefferie de Watalinga. Les sources locales indiquent que les troupes sont déployées dans les parties sud-est et sud-ouest de la chefferie où plusieurs villages s'étaient vidés de leurs habitants, lesquels se sont réfugiés en Ouganda après les dernières attaques attribuées aux ADF. Un élément de satisfaction pour les défenseurs des droits de l'homme dans la région qui souligne que l'espoir renaît. David Mouaz est le coordonnateur de l'ONG Action pour la défense des droits de l'homme en chefferie de Watalinga.
La population s'est lamentée de voir qu'on avait moins d'effectifs dans le rang des FARDC, même si l'UPDF était vers Mokakati, mais ça ne rassurait pas. Alors, comme il y a quand même un renfort considérable, la population commence à avoir des apaisements. Le déploiement dans les zones plus affecté par l'activisme de l'ADF commence à donner une assurance à la population.
Cette information est confirmée par l'armée qui indique que ces renforts entrent dans le cadre de la sécurisation de la zone pour les retours progressifs de la population dans les villages affectés. Ce dimanche matin, nos sources nous renseignent que certaines familles ont traversé la frontière par le pont Lamia pour rejoindre Nobili, Kamango et d'autres localités qui avaient été abandonnées il y a quelques jours suite à l'insécurité. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Direction le Congo central. Plus de 50 maisons se sont écroulées à la suite d'une pluie torrentielle qui s'est abattue hier soir sur le village Matamba Makanzi dans le secteur de la mer, territoire de Mwanda. La société civile Force Vive de Mwanda qui livre l'information indique que les sinistrés ont passé la nuit à la Belle Étoile et n'ont reçu aucune assistance. Jason Sisivimpi lance un SOS en direction des autorités nationales et provinciales ainsi qu'aux personnes de bonne volonté pour abriter ces familles le plus tôt possible. Nana plus riche Mambou pour les détails.
C'est vers 18h qu'un vent violent accompagnant une averse a emporté plus de 50 maisons, dont bon nombre construites en briques cuites au village Matamba Makanzi. Les 50 ménages victimes de ces sinistres ont passé la nuit d'hier samedi à la Belle Étoile. À en croire Gelson Sisivimpi, coordonnateur de la société civile Force Vive du territoire de Mwanda, cette catastrophe naturelle, bien que n'ayant pas causé mort d'homme, a tout de même endommagé plusieurs biens des valeurs de ces sinistrés. D'où son SOS pour aider ses villageois.
La population de Matamba Makanzi lance un appel au secours à toute personne de bonne volonté, au gouvernement provincial et national. Et au moment où je vous parle, plus de 50 ménages sont sans abri. Et vous comprenez que quand déjà dans un village 50 ménages sans abri, c'est que ça fait, c'est presque la moitié du village. Donc vraiment, les villageois sont dans la détresse la plus totale. Les gens sont tentés de dormir à la Belle Étoile. Les gens sont tentés de pleurer.
Signalons que les commandants de la base militaire de Kitona qui en revenant de Boma a vécu ces drames, a doté ses familles sans abri de quelques tentes et des bâches afin qu'ils puissent s'abriter en attendant la réaction des autorités. Matadi, Nana plus riche Mambou, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, le syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques de la RDC demande au gouvernement d'uniformiser la prime de gratuité dès ce mois de février 2022. Dans une déclaration à la presse samedi à Kinshasa, à l'issue de la mise sur pied de ce syndicat et de l'élection de ses premiers animateurs, le secrétaire général de ce syndicat dénonce ce qu'il qualifie de mauvaise catégorisation des écoles primaires. Ignace Mbala Keto demande à tous les enseignants des écoles primaires publiques d'être unis pour défendre en toute légalité leurs droits à travers leur nouveau syndicat. On écoute le secrétaire général du syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques de la RDC dans ses propos recueillis par Noéla Luzitu Kabambi.
Nous, enseignants des écoles primaires publiques de Kinshasa, étions réunis pour réfléchir sur les points suivants. L'inégalité de la prime de gratuité, la déconsidération des enfants des enseignants du primaire dans des écoles secondaires. S'agissant du premier point, personne n'ignore les montants que nous avons touchés. Jusqu'à présent, nous ne comprenons pas quel a été le critère auquel le gouvernement a classifié les catégories des écoles. Les unes, 200 000 francs et les autres, 30 000 francs. Sur ce, nous demandons au gouvernement d'uniformiser la dite prime dès ce mois de février 2022. Quant au deuxième point, les enseignants des écoles primaires sont victimes de chasses dans des écoles secondaires. D'où, nous demandons au ministre national d'instruire aux ministres provinciaux en charge de l'éducation l'application stricte de leurs arrêtés. De ces faits, nous avons jugé bon de créer une structure propre aux enseignants du primaire public dont le comité a été mis en place. Ainsi, nous demandons à tous les enseignants du primaire d'être unis pour défendre nos droits en toute légalité.
Et puis, au cours du dernier Conseil des ministres, le président Félix-Antoine Tshisekedi a demandé à ce qu'on facilite toutes les procédures d'usage pour permettre à Varun Beverage, Pepsi, de lancer rapidement ses activités. 24 heures après, le ministre de l'Industrie est descendu hier à la zone économique spéciale pilote de Maluku à Kinshasa. Sur place, Julien Paluku a présidé la réunion technique sur l'état de lieu de l'avancement du processus d'aménagement du site et de mise au point du début des activités de construction des usines de Varun Beverage pour la production de la gamme Pepsi et celle de la société chinoise Wankang Group pour la fabrication des faïences. On écoute à ce sujet le ministre Julien Paluku.
Qu'il s'agisse du ministère des Finances, la cellule qui est en charge de la gestion des fonds et le recrutement de ceux qui doivent travailler ici pour construire les infrastructures nous a rassuré que tous les appels d'offres sont déjà clôturés et qu'on est à l'étape du début des travaux de la construction des infrastructures dans la zone. En même temps, les entreprises qui sont prêtes vont également s'installer ici sous la gestion effectivement et la guidance de l'agence des zones économiques spéciales. En avril, le président a indiqué qu'il doit passer ici pour poser la première pierre de la construction de l'usine de fabrication des produits Pepsi. Mais en même temps, il ne s'agit pas que de Pepsi. Et donc, nous sommes tombés également sur une deuxième entreprise qui va commencer à fabriquer des carreaux ou les carrelages ici à Kinshasa. Et donc, Made in Congo, les deux entreprises dans le secteur agroalimentaire et dans le secteur de construction vont commencer avril 2022 pour donner des millions d'emplois à des Congolais. Parce que rien que pour ces deux entreprises, lorsque nous avons eu la réunion technique, il y aura près de 10 000 emplois directs qui seront créés en dehors des dizaines de milliers d'emplois indirects.
Notez que les responsables de ces deux sociétés précitées, les experts de l'OVD, l'Office de voirie et drainage, de la SNEL et de la Régie des eaux, ont également pris part à cette réunion. Ces entreprises congolaises travaillent avec la cellule de financement envers les États fragiles, CFF, une structure du ministère des Finances qui vient de boucler avec le recrutement des entreprises qui vont exécuter les travaux de l'aménagement de la zone économique spéciale de Maluku. Manque de politique de communication adéquate dans la gestion des entités territoriales décentralisées et des pauvreté très avancée des populations de ces entités, c'est ce que révèle entre autres un rapport publié hier à Kinshasa par l'ONG Comprendre et Agir dans le secteur minier industriel et artisanal, CASMIA en sigle. Ce rapport sur l'évaluation citoyenne des ETD concerne principalement deux provinces, à savoir le Haut-Katanga et le Lualaba. Shadrach Moukad, coordonnateur de cette structure, recommande aux autorités du pays de renforcer les communautés locales par le financement de leurs activités économiques. Shadrach Moukad le dit à Paul Matendo Mayamba.
Vous imaginez, vous trouvez que l'autorité, le numéro 1, connaît les chiffres, mais l'adjoint ne connaît absolument rien. Et c'est là, nous avons dit, il n'y a pas une bonne communication ou il n'y a pas eu de bonnes informations ou des informations vraies qu'ils partagent. Aujourd'hui, sur le plan d'investissement, il y a des réalisations qui sont faites, mais la lutte contre la pauvreté n'est pas de mise, parce que quand vous vous rendez compte, il y a plus de bâtiments qu'on construit, mais on construit des bâtiments aux côtés de populations très pauvres. Même s'il y a des hôpitaux, il y a des écoles qu'ils construisent, nous disons aux ETD, mais comment les gens auront des moyens pour y accéder? Nous avons plus fait des recommandations pour qu'il y ait la politique de renforcement économique des communautés, organiser des communautés en coopératives, groupes, et financer leurs activités économiques afin qu'ils voient. Et cela va permettre qu'ils aient des moyens de pouvoir envoyer les enfants à l'école, d'accéder aux soins de santé primaires.
Retour au Nord Kivu, les organisations de défense de l'environnement appellent aux actions contre le trafic illégal des ivoires, écailles et trophées des animaux protégés en RDC. Ils l'ont fait savoir lors d'une journée de réflexion hier à Goma, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du pangolin le 19 février. Selon le directeur du projet du Centre de recherche pour la planification environnementale en RDC, environ 9000 pangolins sont tués chaque année depuis 2016, ce qui peut entraîner l'extinction de ce seul mammifère écaillé au monde. Luc Lango l'a dit au micro de Bernardin Nyangui.
C'est un mammifère qui a encore des écailles, donc qui a conservé les formes reptiliennes. C'est pourquoi il est spécial, mais aussi c'est parce que il est menacé. Les Chinois, ils ont créé un marché des écailles qui fait que l'espèce soit totalement menacée dans notre pays. Depuis 2016, on est en train d'attraper beaucoup de tonnes d'écailles qui traversent les pays frontaliers. Par exemple, en janvier 2017, on a attrapé 6 tonnes des cailles de pangolins qui ont traversé vers l'Ouganda. En 2018, on a attrapé encore 7 tonnes de cailles de pangolins, c'était au niveau du Kenya. Et même en Tanzanie, on avait attrapé 10 tonnes de cailles de pangolins. Donc cela montre que notre pays, vraiment, le braconnage y est vraiment accentué. C'est pourquoi il faut protéger cette espèce. Vous trouvez que pour avoir une tonne de cailles de pangolins, il faut tuer 1515 individus. Alors vous comprenez à quelle dimension on est en train de décimer ces espèces de pangolins. À notre niveau, nous sommes en train de nous focaliser sur la conscientisation pour que l'espèce soit protégée.
Rappelons que depuis 2016, la Convention internationale sur le commerce international des espèces menacées a ajouté les 8 espèces de pangolins sur l'annexe 1 des espèces en danger. À propos de la mesure portant suspension de la taxe RAM à partir du 1er mars prochain, le mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement s'est dit à moitié satisfait. Dans une déclaration ce dimanche à la presse à Kinshasa, Augustin Bissimwa, le secrétaire général de ce parti d'opposition extra-parlementaire, rappelle qu'il était déjà au tribunal pour également réclamer la restitution aux citoyens des fonds issus du prélèvement du RAM. Augustin Bissimwa, dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
le MDVC était parti au tribunal et pour des raisons, le MDVC réclamait la cessation du prélèvement. Le MDVC réclamait la restitution des fonds retenus illégalement auprès du petit citoyen qui souffre énormément. À partir du moment où la mesure tombe, c'est-à-dire que le MDVC continue à mettre pression jusqu'à ce que l'on arrive à restituer les fonds perçus illégalement. Parce que il vous souviendra que le Parlement avait, dans l'unanimité, reconnu qu'il s'agissait là d'une escroquerie. Et le MDVC va aller jusqu'au bout afin que nous puissions trouver l'escroc, qu'il soit puni et que l'argent perçu illégalement soit restitué aux citoyens congolais. Et donc, d'ici là, le MDVC va entamer de grandes actions pour exiger qu'il y ait restitution et pour continuer, n'est-ce pas, son procès déjà au tribunal, parce que l'affaire avait été prise en délibéré lorsqu'on avait plaidé.
Actualité internationale.
Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a officiellement lancé ce dimanche la production d'électricité du grand et très controversé barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu, un barrage hydroélectrique, source de tensions régionales depuis plus de 10 ans. Depuis le lancement de ce projet en 2011, l'Égypte et le Soudan font front commun contre l'Éthiopie. Pour ces deux pays situés en aval du fleuve, le Nil est une source d'approvisionnement vitale, fournissant par exemple 97% des besoins en eau de l'Égypte. Si l'Éthiopie devient maîtresse du débit du fleuve, l'Égypte et le Soudan redoutent de manquer d'eau et de perdre des surfaces cultivables. Pour limiter leur dépendance, les deux États souhaitent un accord de contrôle sur l'utilisation du barrage, ce que l'Éthiopie considère comme une atteinte à sa souveraineté.
L'invité.
Il nous vient de la province de la Tchopo. Le Centre d'éducation et des recherches pour les droits des femmes plaide pour l'abolition de la peine de mort en RDC. Une conférence débat a été organisée dernièrement à ce sujet à l'Alliance française de Kisangani. Pour en savoir plus sur les raisons avancées en vue de l'abolition de la peine capitale, nous recevons Claudine Bella, directrice du CRDF. Elle s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Madame Claudine Bella, bonjour.
Bonjour.
Vous avez organisé dernièrement un atelier de réflexion sur la problématique de la peine de mort en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui a motivé cette réflexion?
Notre association met en œuvre un projet intitulé « Participation des associations féminines de la Tchopo dans la lutte contre la peine de mort ». C'est un projet qui a été appuyé par Ensemble contre la peine de mort. Et parmi les activités retenues dans le projet, il y avait entre autres la conférence sur la problématique de la peine de mort en République démocratique du Congo. Là, c'était en rapport avec la célébration de la journée mondiale contre la peine de mort qui est célébrée le 10 octobre de chaque année. Et on devrait animer cette conférence le 10 octobre 2021, mais il y avait certains impératifs qui ne nous ont pas permis de le faire. C'est comme ça que le 12 février, nous avions organisé maintenant cette conférence-là.
Quel est l'objectif poursuivi en abordant cette thématique?
En fait, nous voulons en tant que femmes intégrer le mouvement abolitionniste parce que la femme, c'est elle qui donne la vie. Et en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous militons pour la promotion du droit à la vie. Donc on ne peut pas accepter que le droit à la vie soit ôté. C'est comme ça qu'on s'est dit, nous devons nous impliquer un peu dans cette thématique qui est une question hyper sensible où les gens ne parlent pas le même langage. Mais nous, en tant que femmes, quand nous nous impliquons, je pense qu'il y a des solutions idoines qui doivent être trouvées.
Madame Claudine, quelles sont les tendances qui se sont dessinées dans la salle lorsque les exposés ont été faits par les experts que vous avez invités?
En fait, il y avait deux tendances dans la salle. Il y avait d'un côté les abolitionnistes et de l'autre les rétentionnistes. Mais d'abord, les deux intervenants étaient tous d'accord pour l'abolition de la peine de mort. Quand bien même il y avait des rétentionnistes, mais on a compris l'importance du droit à la vie. Au finish, les gens étaient tombés d'accord pour qu'on continue à mener les plaidoyers auprès de nos parlementaires afin de voter une loi portant abolition de la peine de mort dans notre pays. Parce qu'on sait que notre pays est sous le moratoire, on n'exécute plus les gens depuis 2003, mais est-il que il n'y a pas encore un texte officiel qui dit qu'on a déjà aboli la peine de mort. Donc nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, en tant qu'abolitionnistes, nous devons continuer la sensibilisation, continuer les plaidoyers pour pousser les législateurs congolais à adopter cette loi-là.
Les rétentionnistes disent qu'en République démocratique du Congo, tous ces gens qui sont condamnés à mort, qui sont mis jetés en prison, finissent toujours par s'évader. Eh bien, donc, il faut absolument appliquer cette peine.
En fait, là, je ne suis pas vraiment d'accord avec eux, parce que ceux qui s'évadent de la prison ne sont pas nécessairement des condamnés à mort, non. La peine de mort doit être abolie officiellement. Toutes les personnes condamnées à mort par une décision judiciaire doivent purger leur peine en prison. Donc, on doit les garder en prison. On ne peut pas ôter la vie de quelqu'un. La vie humaine est sacrée. D'ailleurs, c'est repris même dans notre constitution, ça s'est repris dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, même dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, on ne peut pas tuer les gens. Si une personne est reconnue coupable pour telle ou telle autre infraction, elle est punie par la loi, elle purge sa peine en prison.
Mais dans les prisons congolaises, les conditions ne sont pas bonnes. Les prisons congolaises sont semblables au mouroir, madame.
Pour cela, il faut maintenant améliorer les conditions de détention. Chez nous, en République démocratique du Congo, on a encore des sérieux problèmes en cette matière-là. Nos lieux de détention sont en quelque sorte des mouroirs au lieu d'être des centres de rééducation. Alors, le plaidoyer que nous faisons chaque jour, c'est pour l'amélioration des conditions de détention. Mais il faut, cela passe par la réhabilitation des centres de détention, mais également aussi la prise en charge du personnel pénitentiaire. Parce que ces gens qui travaillent aux côtés des personnes condamnées, comment ils vont travailler s'ils ne sont pas rémunérés?
Par rapport aux objectifs que vous vous êtes assignés et au regard de réalité congolaise, quelle est votre position face à la peine de mort?
Promouvoir le droit à la vie. Donc, la vie humaine est sacrée, je le répète encore. L'abolition de la peine de mort est une nécessité.
Madame Claudine Bella, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'était là notre invitée, la directrice du Centre d'éducation et des recherches pour les droits des femmes. Elle s'entretenait avec Jacques Moukonkole depuis Kisangani. C'est la fin de ce journal, coordonné par Noëlla Luzitu Kabambi. Polydor Bassonga était à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de votre attention.